Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur la banque. Avec Zacharie Léveillé, Sébastien Cadoury. Sur la banque.
Hello, Zach.
Salut, salut.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Yes, super, merci. Bienvenue tout le monde à ce 32e épisode avec Jonathan C., président de la Ligue Hockey Senior 3 du Québec. Mais pour commencer avant, on va parler de Bouteille Performance. Pour commencer, Zach?
Yes, Bouteille Performance, 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or. Pour tout achat et installation de pièces d'auto, je sais qu'il y en a à Amos, sinon, est-ce que, ben ça c'est pour la BTB, ouais. Est-ce qu'il y en a plus tard, pas plus tard, je veux dire, voyons, est-ce qu'il y en a ailleurs, je peux pas vous dire, mais merci encore à Frank avec notre petite photo officielle, Frank qu'on a reçu comme invité cette saison ou la saison passée?
Cette saison.
Étant famille de pension pour deux joueurs des Foreurs de Val-d'Or. Ensuite, on a Quick Feet. Code sur la bande 10 sur leur site web quickfeet.com. Quickfeet étant la demi-semelle qu'on rajoute en dessous de notre vraie semelle de patin, ce qui rajoute de la stabilité et de la vitesse. Donc, on parle à un président, ça? Propriétaire, président, c'est quoi?
De quoi? Un président?
Président d'une ligue de hockey, peut-être qu'il va apporter ça. Ça serait... Peut-être que ces joueurs vont... Ben, je connais pas le niveau, mais peut-être qu'ils vont tous se transformer en des Connor McDavid d'ici demain.
Yes. On va parler tout de suite du prochain épisode. D'habitude, on l'annonce en début, des fois en fin. Fait que le prochain, c'est avec Sean Nanou, entraîneur-chef des Forestiers d'Amos. Mais pour commencer, on va y aller avec le 32e épisode de la saison, la mise au jeu. Bonjour Jonathan.
Bonjour. Bonjour messieurs.
Ça va bien?
Très bien, vous autres.
Yes, merci. Yes. Vas-y, Zach.
Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, s'il vous plaît?
Bien sûr, je m'appelle Jonathan Cyr. Je suis un gars qui vit à Thetford Mines, donc président de la Ligue Senior 3 du Québec. Je me suis promené un peu partout au Québec. J'ai resté un peu dans l'Est à Matapédia. Je suis aussi grandi ou grossi, comme diront certains, à Pont-Rouge, près de Québec. Donc, c'est un peu le détail de ma vie pour le moment.
C'est bien parfait.
Pour savoir la ligue un peu, est-ce que je peux aller cogner à la porte d'une équipe puis, pour rentrer ou c'est comment ça fonctionne?
Ben d'abord et avant tout, la Ligue Senior 3 a un repêchage annuel, donc le bassin étant la province de Québec. Du moins, le joueur doit être natif du Québec. Il y a certaines conditions là, au niveau des statuts de joueur, là, le calibre et le niveau de jeu que le joueur a joué, mais essentiellement, chaque équipe procède, dans le fond, a le même bassin et procède à un repêchage annuel là, à chaque année, un peu comme on le voit là, dans la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue junior 3A, avec des conditions un petit peu différentes.
OK. C'est bon, on va commencer ça avec Autour du filet.
Commencer, Seb.
Yes. En quoi consiste votre rôle ou mandat?
Ben, dans le fond, le rôle du président de la Ligue, c'est un peu, dans le fond, de faire tout ce qui est les tâches administratives, là, de faire la gestion de ce côté administratif-là avec l'aide du bureau de direction. Donc, il y a trois bureaux, si on veut, dans la Ligue Senior 3A. Il y a le bureau de direction qui est composé du président, du trésorier, de la personne responsable des communications, du préfet de discipline, puis du responsable des arbitres, sans oublier là, le registraire qui forme le bureau de direction. Par la suite, on a ce qu'on appelle le bureau maître, qui est un bureau conseil qui est formé des huit propriétaires de la Ligue. Donc, ce bureau-là vient jouer un rôle de conseiller au bureau de direction. Et par la suite, on a ce qu'on appelle le fameux bureau des gouverneurs, un peu comme dans chaque ligue, où est-ce que les décisions hockey sont prises et ces choses-là. Donc, grossièrement, c'est de présider ces différents bureaux-là, de s'occuper des tâches administratives, parce qu'évidemment, on n'a pas de personnes à temps plein qui travaillent pour la Ligue. Ça reste toujours une Ligue amateur. On a aussi un rôle de représentativité, comme je fais ce soir avec vous au nom de la Ligue. Donc, on est sollicité beaucoup un peu partout et on représente, si on veut, l'image de la Ligue. On est la personne ressource pour les gens externes là, au niveau de cette ligue-là. Il y a aussi un rôle là, au niveau de la gestion, l'application et le contrôle là, des règlements durant la saison. Toutes ces tâches-là réunies ensemble font en sorte que des fois, on se demande si on va trouver le nombre d'heures nécessaires pour passer à travers la journée, mais c'est toujours passionnant et divertissant, donc on s'y plaît. Là, mais grossièrement, c'est un peu la tâche là, d'un président dans la Ligue Saint-Antoine.
Parfait. Puis pour toi, personnellement, ça a été quoi le parcours pour se rendre à ce poste-là?
Ben, au départ, quand la Ligue Saint-Antoine, il y a 2 ans, donc moi, mon arrivée, c'est en août, dans le fond, là, on est en 2004, donc en août 2022, que la Ligue était à la recherche d'un nouveau bureau de direction complet. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais un petit peu plus de temps dans mon changement de carrière et tout. Et j'avais quand même été 20 ans au sein de la ville de Thetford Mines en tant que plusieurs postes. J'ai été directeur adjoint du service des loisirs, j'ai été responsable de la culture, j'ai été 15 ans de temps responsable de ce qu'on appelait le coordonnateur sportif. Donc, j'accompagnais année après année le comité du hockey mineur. Fait que j'ai été partout dans les différents comités de ligue de hockey mineur, hockey junior de la région là, de où je suis, Thetford Mines, La Beauce, Chaudière-Appalaches. Donc, j'avais un parcours administratif au niveau du hockey, au niveau de la fédération aussi, quand même avec beaucoup d'expérience. Fait que c'est sûr que je suis un entraîneur de hockey aussi depuis longtemps. Puis là, j'avais comme envie de relever d'autres défis. J'ai eu la chance de coacher dans la Ligue nord-américaine comme adjoint. J'ai eu la chance de coacher dans le junior 2A ici, dans Chaudière-Appalaches. Puis là, je me dis, ah tiens, j'ai le goût d'un nouveau défi. J'ai le goût d'essayer quelque chose de différent dans le hockey, mais en gardant un contact avec ce merveilleux monde-là. Fait que quand ce poste-là a été affiché, J'ai envoyé mon nom sans nécessairement avoir d'espoir ou quoi que ce soit. Puis finalement, la Ligue m'a appelé, puis on s'est rencontrés, puis ça a cliqué pour eux, du moins. Puis on a décidé d'embarquer dans l'aventure, puis c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je regrette pas du tout. Là. La Ligue s'en va dans une belle direction. Les gens autour de la table sont tous incroyables, ils ont toutes leur façon d'être, puis ben ça fait grandir puis évoluer cette ligue-là. Fait que non, je suis vraiment très content malgré les bas, parce qu'il y a beaucoup de hauts, mais des fois il y a des bas aussi. Malgré tout ça, je suis très content d'avoir fait ce choix-là.
Pouvez-vous nous faire un bref historique de c'est quoi la LHSAAQ?
Comme je dis, moi, c'est ma 2e saison là, en tant que président. Donc, évidemment, dans ma vie, j'ai eu la chance là, de voir la Ligue évoluer un peu en parallèle avec ce que moi, je faisais. Mais grosso modo, la Ligue a été créée officiellement en 1996. Je pourrais pas vous donner tous les détails de comment ça s'est fait, mais un peu comme on discutait... Avant le début de l'émission, c'est comme un changement qu'il y a eu au moment où est-ce que, je crois, elle s'appelait la Ligue de la Mauricie. Il y a eu en même temps la défunte LCH qui avait fusionné avec la Ligue nord-américaine dans ces dates-là à peu près ou un petit peu après. Fait que c'est comme ça que tout ça s'est créé puis qui a évolué en parallèle avec la Ligue nord-américaine de hockey. Fait que grossièrement, ça s'est construit comme ça. Au début, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient centralisées, si on veut, là, dans le centre du Québec, Mauricie. Puis tranquillement, ben, ça l'a agrandi un peu partout. Puis aujourd'hui, ben, là, on est rendu avec Granby, Terrebonne, entre autres. Puis bientôt, là, des changements à ce niveau-là qui vont être annoncés. Fait que c'est vraiment le fun de voir cette évolution-là. Mais grossièrement, là, ça fait au moins depuis 1996 que la Ligue ressemble à ce qu'elle a présentement.
Parfait. Zach, c'est à toi.
Yes, des nouvelles règles ont été établies pour permettre à certaines équipes de repêcher des joueurs de talent. Quelles sont ces règles-là?
Ben, en fait, c'est sûr que le hockey senior au Québec étant ce que c'est, on ne changera pas l'histoire du hockey senior au Québec. Par contre, on est capable de l'encadrer différemment. Les gouverneurs et les propriétaires de chacune des équipes avaient une volonté d'enrayer, si on veut, la violence excessive. Pas de complètement retirer les combats ou la bataille, mais de diminuer la violence excessive aux endroits où le risque de blessures et d'incidents graves aurait pu avoir un impact. Fait que c'était un peu la volonté des gens. On ne se le cachera pas non plus, tu sais, les ligues comme la Ligue junior majeure du Québec, parce que vous êtes quand même beaucoup impliqués dans cette ligue-là. Vous le voyez, là, la tendance n'est plus là du tout au niveau des bagarres. On est en train de changer les mœurs, si on veut, du hockey québécois. Et ça fait en sorte également que des hommes forts, si on peut les appeler comme ça, ça devient une denrée rare aussi, là. Puis, les équipes, les propriétaires commençaient à remarquer que plus le calibre augmentait, plus on laissait de la place aux joueurs talentueux, puis plus les foules augmentaient aussi. Pas nécessairement là, de 200%, mais il y a eu quand même des augmentations. Puis ça, ben ça vient évidemment... chercher des propriétaires hein, qui investissent dans des sommes quand même dans ces équipes-là. Fait que de voir ça, ben ça a fait un changement. On avait beaucoup de jeunes joueurs de talent qui provenaient justement de la Ligue junior majeure du Québec ou de la Ligue junior 3 qui n'osaient pas faire le saut dans la Ligue senior par crainte. Tu sais, c'est sûr qu'on arrive à 20 ans dans une Ligue senior. Veux pas, on passe du plus vieux de la ligue au plus jeune, puis on vient jouer contre des hommes qui ont quasiment l'âge de nos pères. Là. Fait que ça peut être épeurant. Fait qu'on a les gens les gouverneurs, les propriétaires ont voté des règles au niveau de la protection de ces joueurs-là. On voulait s'assurer que les joueurs qui avaient à rendre des comptes le faisaient entre eux. Et que nos joueurs de talent pouvaient venir évoluer sans nécessairement être craintifs. Fait que ça l'a laissé place à ça. On a fait des modifications aussi au niveau des statuts de joueurs, donc dans l'objectif d'aller chercher des joueurs un petit peu plus talentueux parce que le marché est quand même disponible. Il y a la place pour aller en chercher. À l'époque, le talent était contrôlé, puis c'était pas parce que on voulait diminuer le calibre de la Ligue à l'époque au niveau des propriétaires et des gouverneurs, mais plutôt pour assurer qu'il n'y ait pas là, d'escalade dans le but de convaincre des joueurs de venir jouer chez un ou chez l'autre parce qu'il y a juste un Wayne Gretzky sur la planète, mettons. Fait que c'était un peu le contrôle qu'il y avait, mais aujourd'hui, ces changements-là, ces modifications-là, ont forcé d'admettre que la Ligue a réussi son pari. On avait, à 2 semaines de la fin de la saison environ, une différence entre la 7e position et la première de 4 points. Fait que, ça a bougé beaucoup dans les 3 dernières semaines, je dirais. Fait que, donc, par le fait même, on est obligé de dire que ces changements-là ont été profitables là, et ont atteint leur objectif, malgré que, comme dans tout changement, il y a des modifications qui peuvent être apportées là, pour assurer, si on veut, la continuité puis l'objectif qui était cherché par les propriétaires.
OK. Mike Novosad a été le premier choix au total au dernier repêchage il y a 40 ans. Êtes-vous en mesure de nous donner quels critères de sélection?
Ben, c'est sûr que, comme je t'ai dit, c'était les statuts des joueurs qui ont fait un gros changement cette année. C'est difficile pour moi là, de vous les nommer parce que c'est quand même précis dans nos règlements. Fait que même les directeurs généraux d'aujourd'hui de nos équipes consultent énormément ces statuts-là parce que c'est quand même complexe au niveau de la réglementation. Mais grossièrement, c'est qu'on a laissé, comme je le disais un petit peu plus tôt, place à des joueurs de talent un peu plus élevé. Donc, on a ouvert certains statuts qui étaient, si je peux me permettre l'expression, barrés dans notre ligue. Donc, en ouvrant ça, ben, ça l'a laissé de la place justement à Novosad de rentrer dans la ligue et de d'autres joueurs de ce niveau-là. Donc, les statuts se modifient à chaque année dans un objectif de garder toujours la compétitivité entre les équipes, puis en même temps le niveau de jeu qui est apprécié des spectateurs. Mais comme je te dis, c'est sûr que je pourrais lire les règlements, ça m'aiderait un petit peu plus à être précis, mais dans le but de ne pas mélanger les amateurs qui nous écoutent, là, dans le fond, c'est qu'on a ouvert un petit peu plus l'accès aux talents de niveau supérieur, si on veut.
C'est vrai que ton son est coupé.
Mon son à moi?
Ah. Ah non, c'est le son à Zach. Nouveau son d'un vrai guerrier.
Oui.
OK. Parfait. Au cours du repêchage, tous les choix de première ronde proviennent de la LNEH. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est un peu une ligue compétitrice à la vôtre?
Absolument pas, même que, au contraire, on est ce qu'on pourrait appeler des compléments tous les deux. On a des communications, la Ligue nord-américaine et moi, en fait, leur commissaire, dans le but d'essayer de regrouper certains dossiers ensemble. On est encore à regarder les possibilités. On est très loin d'une conclusion, mais on travaille ensemble. C'est sûr que la Ligue senior 3 du Québec ne peut pas s'attaquer au marché de la Ligue nord-américaine pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est la grosseur des amphithéâtres. Donc, la ligue, nous, on est une ligue amateur, donc, alors que la ligue nord-américaine est une ligue professionnelle. Donc, les joueurs sont rémunérés, déclarés dans la ligue nord-américaine. Fait que c'est quelque chose que on ne pourra jamais et on ne voudra jamais atteindre de notre côté. On veut rester amateur totalement. Et c'est sûr que la présence de la Ligue nord-américaine est importante pour la Ligue senior 3, pour les mêmes raisons que j'expliquais au niveau des statuts de joueurs. Demain matin, la Ligue nord-américaine n'étant plus là, il y a un paquet de joueurs de haut niveau qui vont vouloir venir se joindre à notre Ligue, mais avec des conditions que la Ligue senior 3 du Québec ne peut pas remplir. Et l'inverse également, il y a des joueurs qui évoluent dans la Ligue senior 3 pour plusieurs raisons, qui ne sont pas prêts à jouer à temps plein dans la Ligue nord-américaine, mais qui peuvent aller remplacer ou dépanner dans des circonstances précises, qui font en sorte que la Ligue senior 3 est importante également à ce niveau-là pour la Ligue nord-américaine. Donc, c'est beaucoup plus un complément de deux ligues de hockey senior qu'une compétitivité. Il n'y a aucune compétition entre les deux. C'est des raisons souvent différentes. La Ligue senior 3A du Québec peut apporter pour des joueurs de haut niveau une conciliation hockey-famille. On entend souvent travail-famille, mais nous, c'est hockey-famille. Donc, tu sais, moins de parties, moins de distance entre les équipes. Donc, des fois, c'est un beau compromis pour un joueur de hockey de haut niveau qui veut continuer à évoluer sans nécessairement nuire à sa vie familiale. Fait que dans le fond, je pense que du côté de la Ligue senior 3 du Québec, et je ne peux pas parler au niveau de la Ligue nord-américaine nécessairement, mais j'en suis certain que le complément des deux fait l'affaire des deux, effectivement.
Okay. On va parler de statistiques un peu. Mathieu Newberry, 44 points en 20 games, une moyenne de 2,20 points par match. C'est une belle offensive. Et puis de l'autre côté, on a Sammy Carbonneau. 165 minutes de punition en 14 games pour deux équipes. Est-ce que ces deux statistiques sont représentatives de la Ligue, donc du bon hockey parsemé de robustesse?
Ben oui, effectivement. C'est sûr que, comme dans tout bon équilibre, il y a toujours des extrémistes. Ouais. On est beaucoup à la recherche d'extrémistes comme M. Newberry. Mais par contre, ceci dit, oui, les changements de réglementation sont venus faire une grosse différence dans les pénalités puis dans les sanctions. Donc, ça peut paraître gros présentement, mais je dirais que, oui, effectivement, la Ligue Senior 3 offre du jeu d'une certaine robustesse dans la légalité et surtout dans le respect, mais offre également du jeu de qualité à un faible coût, là. Allez voir des Mathieu Newberry, des Nomosad, des Bastien, le petit Rochette à la Tuque, Bédard à Donnacona et ainsi de suite. Là, il y en a un paquet, mais c'est des joueurs qui permettent un niveau de hockey incroyable, des jeux, des situations exceptionnelles et oui, avec de la robustesse. Donc, pour un petit 13$, un petit 10$ en saison régulière, un petit 15$ en séries éliminatoires, souvent, c'est beaucoup plus accessible pour les gens là, dans les situations économiques actuelles.
Pour un joueur qui se fait repêcher, pourquoi choisir la LHSAAQ?
Ben, évidemment, c'est sûr que c'est toujours le rôle des équipes de convaincre et d'attirer les joueurs chez eux. Par contre, aujourd'hui, sans avoir fait nécessairement de sondage ni de parler directement à des joueurs, malgré que j'en connais quelques-uns, mais si j'écoute mes propriétaires, ce qui fait la grosse, grosse différence, c'est comme je le disais, c'est la conciliation hockey-famille puis hockey de haut niveau. Les distances sont parfois difficiles. Les joueurs qui sortent du junior majeur à 20 ans jusqu'à, mettons, 25-26 ans sont encore capables de vivre cette aventure-là puis sont souvent dans la Ligue nord-américaine. Mais lorsque la famille s'installe, le marché du travail aussi, les études sont terminées, ça devient un petit peu plus différent pour certains d'eux. Fait que des fois, on devient une option, une alternative agréable. Mais c'est sûr et certain que le calibre de jeu attire aussi beaucoup de joueurs. Là. On est un petit peu... On a la chance de pouvoir aller chercher des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, des joueurs qui évoluent dans la Ligue nord-américaine, des joueurs universitaires, mais c'est un peu une poursuite aussi pour les joueurs de niveau junior 3A, qui, dans le fond, est le même concept, si on pourrait faire un parallèle un peu boiteux entre la Ligue de hockey junior majeur du Québec versus la Ligue nord-américaine et nous versus la Ligue junior 3A. C'est un peu boiteux, mais c'est à peu près le même genre. Fait que des fois, ça devient une option intéressante pour les joueurs.
Okay. 8 équipes jouent 22 parties. Est-ce qu'il y a un facteur géographique pour déterminer quelle partie jouera le plus souvent contre une équipe comparée à un autre?
Ben, présentement, ça a été vraiment un calendrier débalancé, comme vous avez pu le voir, avec un match supplémentaire tiré au hasard selon les disponibilités de classe. Au niveau du calendrier, c'est toujours décidé lors de l'Assemblée générale annuelle. C'est là qu'on prend les décisions par rapport à la réalité. On a essayé cette année de diminuer le nombre de matchs. Au départ, on essayait dans les premiers temps de viser, si je me souviens bien, une vingtaine de matchs. C'était plus complexe. On a été capable de faire un entre-deux. Là, dans le fond, on faisait 24 games avant. On visait 20 pour certains, fait qu'on est allé à 22 matchs, toujours dans l'optique de vouloir offrir aux joueurs une facilité, là, encore une fois, là, avec la famille. Est-ce que ça va être encore comme ça? Ça, tout dépendant du nombre d'équipes qu'on va avoir pour la saison prochaine, mais c'est toujours dans l'objectif de diminuer les déplacements. À chaque année, il faut revoir le calendrier, revoir aussi le partage au niveau des distances et tout. Mais c'est comme ça que ça s'est décidé. On a fait un essai cette année. Est-ce qu'on va poursuivre? Ben, on va en savoir plus le 1er juin 2024.
On parle de déplacement. Je ne sais pas si on en a parlé puis ça m'a échappé, mais dans ces ligues-là, déplacement, c'est le joueur prend son auto par lui-même et s'en va dans toutes les villes ou c'est des déplacements d'équipe?
C'est, je dirais, un petit peu des deux, parce que comme on le mentionnait, le bassin de chaque équipe est provincial. Fait que tu peux te ramasser dans ton équipe avec des joueurs locaux, des joueurs de Gatineau, puis des joueurs du Lac-Saint-Jean à la limite. Fait que, dans le fond, les déplacements, quand même que les équipes voudraient se déplacer en autobus, des fois, il y en a qui vont prendre le retour pour se déplacer. Mais la plupart du temps, il y a un peu un mix des deux. Je dirais que la majorité des équipes se déplacent à la TUC en autobus. Donc, il y a un point de rencontre à Trois-Rivières, puis après ça, on prend l'autobus jusqu'en haut. Mais il y a beaucoup de joueurs qui voyagent avec leur propre véhicule, justement parce qu'ils viennent un peu de partout. Là. Donc, c'est pas comme, mettons, dans le junior majeur où est-ce que les joueurs sont résidents de la ville pour laquelle ils évoluent. Là. Nous, les joueurs représentent leur équipe durant les matchs, leur municipalité durant les matchs, mais le reste de la semaine, là, ils sont de retour à la maison.
Parfait. Final TRVS là-dessus, quelles sont les principales forces des équipes en lice?
Je me souviens plus si on en a parlé en dehors des ondes, mais un peu comme je le disais, la grosse force des deux équipes présentement se trouve dans les buts. Ils ont deux excellents gardiens de but. Je pense que cette série-là va... En tout cas, je peux me tromper, je ne suis pas l'expert d'analyse hockey, mais je pense que les matchs ne se termineront pas avec des gros scores, malgré le fait qu'ils ont aussi de très bons marqueurs dans chacune des équipes. La robustesse aussi pour les deux équipes, puis surtout l'acharnement des deux équipes. Je pense qu'on va assister à une guerre de tranchées. Ça va être du hockey de très haut niveau. Les deux personnels entraîneurs aussi avec beaucoup d'expérience. Non, je pense qu'on va assister à une très belle finale là, au niveau de la Ligue. C'est tout à notre avantage.
Parfait. Donc okay. Là, on va afficher deux, trois commentaires. Avec une équipe à Bellechasse et Saint-Romuald, est-ce qu'il va y avoir une game le vendredi et samedi différente pour les deux équipes?
Ben, comme je vous disais, là, ça va tout se décider lors de l'Assemblée générale dans l'objectif là, de faire les calendriers, mais c'est toujours une préoccupation lorsqu'on fait les calendriers dans le but de ne pas... diviser les partisans puis d'être obligé de les forcer à faire des choix. C'est sûr qu'on a une réalité aussi dans notre ligue, c'est qu'on est dépendant des disponibilités de glace de nos municipalités. On a une collaboration souvent très, très intéressante, mais on n'est pas unique dans les amphithéâtres. Il y a plusieurs activités qui se déroulent là aussi. Fait qu'on essaie avec les municipalités de travailler de concert, mais sachant que notre ligue veut évoluer toujours les vendredis et les samedis le plus possible, puis éviter le dimanche pour ce qu'on appelle le dollar loisir qui est plus présent les vendredis et samedis. C'est sûr que on va quand même prendre ça en considération pour voir essayer de faire du mieux qu'on peut avec toutes les contraintes qu'un calendrier peut apporter.
Parfait. Les autres commentaires que je voulais afficher, ben, ils sont un peu pareils. Boily et Piché, deux gros gardiens, les deux meilleurs gardiens de la Ligue que Félix Dallaire écrit. Aussi super intéressant comme émission, merci. Très apprécié comme commentaire. Fait qu'on peut continuer, Seb, avec la question.
Good job, Joe. Est-ce que le championnat, la Coupe porte un nom? Puis si oui, pourquoi ce nom-là, est-ce que vous savez?
Oui, en fait, depuis l'an passé, la Coupe s'appelle la Coupe Jauro. Donc, nous, on a eu un partenaire financier qui est Transport Jauro, qui est situé à Saint-Boniface, près de Shawinigan. Donc, on a eu la chance là, d'avoir un commanditaire qui se joint à nous. On essaie toujours d'aller chercher des commanditaires qui veulent venir donner un coup de pouce ou s'afficher au niveau de la Ligue Senior 3 du Québec. C'est toujours un plaisir de s'associer avec des entreprises gagnantes. Puis les propriétaires, Jonathan et Jean, là, du Transport Jauro, ont démontré leur intérêt pour commanditer la Coupe. Fait que c'est comme ça qu'on a donné le nom à cette Coupe-là. Puis c'est quand même intéressant d'être en mesure de faire des partenariats de ce style-là.
Parfait. On va être rendu à la mise en échec. Donc, la mise en échec, c'est là qu'on essaie de chercher des anecdotes auprès des proches ou si on ne peut pas les contacter, on y va par nous-mêmes. Donc, ton expérience Pee-wee QC tardivelle. Rapido 91-92.
Ça nous rajeunit pas. Hein? Donc, ça date quoi? Puis oui, on a 12 ans. Ça fait presque 40 ans de ça. Là. Donc, c'est sûr que ça fait très longtemps, mais c'était quand même pour en tout cas tous les jeunes de mon âge à cette époque-là de pouvoir participer au tournoi Puis oui. De Québec, c'était tout qu'un honneur. On n'avait pas la chance d'évoluer sur des patinoires de grande envergure, puis d'aller jouer au Colisée de Québec à l'époque où est-ce que les Nordiques existaient encore. C'était quand même très intéressant. Fait cocasse, on a perdu à l'époque. Si tu perdais le premier match, tu te transférais d'emplacement, on se ramassait à Bernières-Saint-Rédempteur pour la poursuite du tournoi. Mais le match qu'on a perdu, c'est l'équipe s'est rendue en finale et a gagné la bannière. Cette équipe-là, c'était la formation de l'amiante, donc de Tetvermine. Pendant 15 ans de temps, j'ai travaillé dans un aréna avec laquelle la bannière était affichée en face de mon bureau. 92-93, champion, puis oui, de Russie, tournoi de Québec. Je suis revenu dans mes vieux souvenirs avec cette pancarte. Mais ça a été une expérience assez agréable, même que notre entraîneur à l'époque voulait, dans le fond, n'avait pas pu garder son fils comme gardien de but. Puis on était la deuxième année. Puis oui, la première année, il n'y avait pas eu de double lettre dans notre région, fait qu'on ne pouvait pas participer au tournoi. La deuxième année, on a participé. Puis c'est ça, le gardien de but qui était le fils de notre coach n'a pas fait l'équipe. Il voulait absolument l'amener là-bas. Fait que mon père, qui était gérant, a décidé qu'on amenait tous les joueurs affiliés au tournoi. Fait que d'après moi, en l'histoire du tournoi, puis oui, on était probablement la seule équipe avec trois gardiens de but sur la photo d'équipe du tournoi. Puis oui. Ça a été une autre belle anecdote.
On a Jérémy Contour dans les commentaires. Avec la vidéo que tu viens de voir, les prendrais-tu dans ta ligue, la mise en échec?
C'est sûr que moi, je suis chanceux. Je n'ai pas à répondre à cette question-là. Je ne suis pas un directeur général, donc je ne m'occupe pas de repêcher les joueurs qui sont sur la vidéo.
Okay. On va aller avec les tirs de barrage. Et tu sais, de barrage, je vais commencer. Souper de rêve avec quatre personnalités du sport, c'est qui tu choisirais?
Hey boy! Probablement Michael Jordan, Mario Lemieux. Je suis quand même, ça donne un peu mon âge. Tiger Woods, probablement qu'on aurait des soirées intéressantes en partant. Puis, une autre personnalité sportive, Marie-Philippe Poulin. Qui vient de proche ici, là, à Beauceville. Donc, ouais, je pense que ça serait les quatre personnes.
OK.
Parfait. Ensuite, que pouvons-nous vous souhaiter à toi personnellement et à la Ligue pour la suite?
Ben, je pense que le meilleur souhait, c'est que nos partisans continuent d'encourager nos équipes, qu'ils soient présents en grand nombre, qu'ils nous suivent. Cette Ligue-là a besoin de ses fans. Les équipes ont besoin de les fans. Je pense que chaque partisan doit être content ou satisfait du rendement de leur équipe. Comme je vous disais, le classement a été très serré. Donc, c'est sûr que moi, une poursuite avec la même tendance d'augmentation des foules, c'est sûr que ce serait le plus grand souhait de garder les 8 équipes présentes et peut-être même en ajouter dans les prochaines années. Ça serait, à mon avis, le meilleur souhait là, que vous pouvez me faire.
C'est ça qu'on vous le souhaite.
Génial.
Merci beaucoup d'être venu, puis on va vous souhaiter une bonne soirée.
Hey, merci, messieurs. À la prochaine.
Ça fait plaisir. Merci.
Bye-bye.
Yes, fait que je pense que le ref va être prêt. On va le rentrer tout de suite.
Ben, il a mis son bâton, il a pris ce goal-là. Il l'avait, la poche.
Salut, ref.
Salut, les boys. Ben oui, le goal-là, il l'avait, la poche. Il l'a poussé, la poche. C'est ça, c'est quoi? Je me souviens, j'ai jamais qu'à de leur dire. C'est Zach, ça. Tout le temps en train de s'assister avec son père. Tout le temps. Hey, je vais rentrer dans mon sujet parce que, je vais parler des Lions. Écoute, les Lions, ils ont été sauvés. Là, aujourd'hui, j'ai envoyé une petite nouvelle à Sylvain. Je ne sais pas s'il y a eu le temps d'aller voir exactement c'était quoi. Ah ouais. Mais qui de mieux que parler de la saga des Lions de Trois-Rivières que notre chroniqueur vedette des Lions de Trois-Rivières, monsieur Sylvain Plamondon.
Wow, vedette, là, on se calme.
J'ai passé à TVA Nouvelle à Trois-Rivières. T'es une vedette.
Fait que Sylvain.
Salut, boy.
Salut. Fait que Sylvain, c'est ça. Écoute, toi qui couvres les Lions, tu peux-tu nous parler un peu de la saga? Qu'est-ce qui. Il se passe quoi, là, finalement? Là?
Oui, ben, justement, aujourd'hui, l'annonce officielle a été faite. Parce que, bon, tout le monde sait que mardi, c'était la date butoir. Pour savoir ce qui se passait avec les Lions et les Growlers de Terre-Neuve. Clairement, la Ligue ne voulait plus de Deacon parmi eux. Donc, Deacon voulait absolument rendre les deux équipes, ce qui n'était pas possible. Il y a personne qui voulait qui s'est présenté pour l'achat des Growlers, mais il y a quelqu'un qui s'est présenté pour l'achat des Lions de Trois-Rivières. Les Growlers ont été dissous, malheureusement pour les partisans de Terre-Neuve. Donc les matchs qui restaient contre les Growlers ont été annulés et là on s'est tourné vers un règlement des pourcentages de nombre de points par match pour pouvoir définir le classement. La journée de mardi, j'ai fait le pied de grue au Colisée Vidéotron toute la journée. La réunion avait lieu autour de midi, mais la réponse a sorti très tard en après-midi. J'ai resté là. Les visages étaient longs dans le casier, je peux vous le dire. Tu sais, à force de faire des entrevues avec les gens, ben, tu finis par connaître du monde, puis on se reconnaît, puis on se dit bonjour. Puis, les visages étaient longs. Moi, j'avais une vue sur la passerelle où ce qui était les bureaux, puis je voyais les gens qui se prenaient de bureau en bureau, la tête dans le cellulaire. Ça n'a pas été une journée facile pour eux. Et ben, ça a sorti en fin d'après-midi. C'est qu'il y a un acheteur qui s'est présenté. Puis ce qui a été avantageux dans l'histoire des Lions, parce qu'il était vraiment midi moins une, minuit moins une, comme on dit dans la... Mais c'est ça, c'est que la personne s'est présentée directement à la Ligue, a soumis, et c'est un Américain du nom de Jeff Dickerson. Jeff Dickerson a une compagnie un peu dans le même genre que Deacon Entertainment. Monsieur Dickinson a des activités dans le NASCAR. Il détient aussi deux équipes de la ECHL, les Swan Rabbit de Greenville et le Rapid de le nom de la ville m'échappe. Mais bon, c'est le Rush de Rapid City. Donc, il s'est présenté, il a dit qu'il était intéressé à acheter l'équipe. Donc ça l'a permis de sauver l'équipe. L'achat n'était pas fait à ce moment-là. la Ligue avait pris sous tutelle l'équipe jusqu'à la conclusion de la vente. Mais juste pour vous montrer comment Deacon Entertainment et en particulier le président, M. McDonald, sont des personnes, moi je vous dis, je ne suis pas gêné de le dire, je vais le dire, c'est des gens qui sont extrêmement arrogants. Et il disait, il avait émis un communiqué en disant qu'il gardait le contrôle de l'équipe jusqu'à la vente. C'était pas du tout vrai. La Ligue avait bien spécifié que l'équipe était sous tutelle de la Ligue jusqu'à la conclusion de la vente. Donc, la vente a été officialisée aujourd'hui même par le groupe Spire Entertainment, si je me rappelle bien, S-P-I-R-E. Donc, c'est comme ça que ça s'est conclu. C'est comme ça que la saison des Lions a été sauvée. Ils ont permis de terminer la saison et de possiblement aller à la série. Et scénario hollywoodien, les deux équipes contre qui les Lions se battent pour une place en série, ben ils s'affrontaient tous les deux la fin de semaine dernière. Les Lions étaient supposés d'affronter les Growlers. Donc, les matchs ont été... Fait que les Lions n'avaient pas leur destin entre leurs mains. Et malheureusement... les Raiders ont gagné deux des trois matchs contre les Mariners du Maine. C'est qui a mis les Lions. Les Lions n'ont pas le choix en fin de semaine de gagner au moins deux des trois matchs s'ils veulent aller en série, mais c'est très possible. Mais l'équipe, il y a un renouvellement dans cette équipe-là. Il y a un engagement. Je pense que Coach Schultz, ça a été difficile, mais il a réussi à instaurer quelque chose. Puis je vous dirais que moi, il y a 3 ans que je suis l'équipe, c'est la première fois que je sens qu'il y a une culture d'équipe chez les Lions de Trois-Rivières. Donc, tant mieux. Mais je voudrais pas faire le concert party pour terminer. Mais moi, je crois pas à la pérennité à long terme de l'équipe s'il n'y a pas des investisseurs locaux qui sont impliqués. Ça, moi, pour moi, c'est un incontournable. Bon, c'est bon, on sauve la saison. Tout le monde est content. Mais moi, personnellement, je suis encore un peu... Si... Mais je sais qu'il y a un groupe présentement qui est en pourparlers avec le groupe de M. Dickerson pour s'impliquer dans l'investissement de l'équipe, un groupe local. Je vous fais un scoop. Il n'y a personne qui a diffusé ça encore. Mais mardi, j'ai vu un groupe de 4 personnes qui avaient de l'air des gens d'affaires. Malheureusement, j'ai pas pu les identifier. Mais qui ont fait le grand tour du Colisée mardi dernier. Ils ont pris des photos des installations, ont posé des questions sur l'entente avec le nom de l'aréna Vidéotron, puis c'est combien de temps, puis ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de local qui va s'impliquer dans avec le groupe de M. Dickerson pour l'avenir des Lions. Parce que, tu sais, moi, il y a des rumeurs présentement, bon, quand les Growlers sont disparus, les Growlers et l'équipe affiliée des Maple Leafs de Toronto. Et les Maple Leafs de Toronto ont très bien indiqué le fait qu'ils veulent que leur prochain club affilié soit plus proche. Et imaginez le gars, là, tu sais, les Marlies rappelaient un gars, le gars partait de Terre-Neuve, s'en allait à Toronto. Tu sais, ainsi de suite, c'était. Puis j'y comprends les Leafs, là. Fait que là, il y a des rumeurs qui ont parti que, bon, peut-être que. Monsieur Dickerson fait l'achat pour pouvoir déménager l'équipe à Toronto. Puis, tu sais, on regarde la situation froidement. Là. Puis, je pense pas que ça va arriver, mais quand même, on regarde la situation froidement. C'est un homme d'affaires. Mm-hmm. Moi, j'ai le choix d'installer une équipe à Trois-Rivières ou dans la banlieue de Toronto. Et malheureusement, le choix est pas difficile à faire. C'est pour ça que je pense que la pérennité de l'équipe doit passer par une implication de gens d'affaires locales.
Je suis d'accord, sauf qu'à Toronto, ça a dysfonctionné. T'as déjà Maple Leafs puis Marlies. Le monde, on s'en fout de la SHL, là.
Ouais, c'est sûr qu'il ne serait pas à Toronto même, là. Ça serait peut-être dans une banlieue ou.
On va se mettre là-dessus, les boys. On va se cotiser sur la
banlieue. Ah, moi, je me tiens au courant, ça, c'est sûr.
Je vais dire ça. On va se battre avec eux autres.
Hey, je voulais revenir sur un dernier point, là, c'est vrai. Mardi, il y a eu un podcast qui a été mis en onde sur l'heure du midi. Puis il y avait 2 personnes impliquées chez les Lions dans le passé. Mathieu, je peux les nommer, c'était public là, le podcast. Là. Il y avait Mathieu Vachon, journaliste du Nouvelliste. Il y avait Monsieur Noël, qui était un ancien employé des Lions. Et vous rappelez quand j'ai pris une pause avec vous, puis une pause tout court parce que j'étais un peu découragé de la façon dont j'avais été traité chez Lyon. Ben, c'est exactement de ça ces deux personnes-là ont parlé, de l'environnement toxique qu'il y avait à cause d'une personne. Mm-hmm. C'est avec cette personne-là que j'ai même perdu mon accréditation aux médias. Et bon, ben là, c'est revenu. J'ai même eu une entrevue exclusive avec un joueur des Lions. Ma première entrevue en anglais, c'est moi, je trouve que c'est bien passé. Non, c'est... puis la personne qui est là, qui est là en poste, je n'aimerais pas de nom parce que ça va identifier la personne qui est partie puis dont ces deux personnes-là ont parlé. Ben, c'est une personne vraiment qui est classe A1, puis il comprend notre but. On est là, nous autres, on est là pour promouvoir l'équipe, là, tu sais. On n'est pas là pour nuire à personne. Mais faut dire les vraies choses aussi, là, tu sais. On n'est pas là pour faire les cheerleaders non plus, là.
Non, c'est ça.
Sylvain, l'année prochaine, on va être deux, puis peut-être trois, fait que à Trois-Rivières, fait que ça va aller bien, puis on va te faire du bon contenu avec les Lions.
Good.
Yes, puis Sylvain, tandis que t'es là, t'es la première étoile de la semaine, ça, on s'en avait parlé, là, je voulais te l'annoncer en personne.
Bon, ben, merci, ça fait plaisir. Le vieux, il fait sa place.
Hey, merci Sylvain d'avoir accepté mon invitation. Le premier invité de Laisse-toi la parole au ref.
Yes, sir.
Hey, merci ref, merci boys.
Hey, salut Sylvain.
Salut.
Pour une fois, tu laisses parler quelqu'un, là. On va continuer.
Ben oui, mais lui, il est intéressant. OK, c'est une joke, les boys. De rien, j'ai encore des trucs à jaser, moi. Dossier Connor McDavid. Dossier Connor McDavid, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Écoute, il en manque une. Il est rendu à 90 de passes. Fait qu'écoute, logiquement, demain, il devrait réussir. Mais là, s'il ne réussit pas d'ici la fin de l'année, c'est parce que il n'y a plus personne à côté de lui qui joue. Parce que sérieux, c'est ça, 99 passes. Donc, je répète qu'il pourrait devenir le quatrième joueur de l'histoire de la Ligue nationale à avoir 100 passes en une saison après Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Bobby Orr.
Attends, tu parles s'il ne réussit pas, c'est parce qu'il n'y a personne... Il n'y a personne qui joue.
Il n'y a personne qui sort.
Oui, non, mais je comprends. Mais avez-vous vu les deux vidéos là, avec Evander Kane?
Non, je ne sais pas de quoi tu parles.
Non, ben, Draisaitl s'est pogné avec Kane. Corey Perry s'est pogné avec Kane. Fait que d'après moi, c'est pas Kane qui va. Mettons, je veux dire, la chimie dans cette équipe-là, elle a mal en ce moment.
Ouais. C'est plate, mais c'est ça. Il y a juste à sortir Perry et Draisaitl. Hey, je vais passer mon segment Zone Fan LHJMQ. Qu'est-ce qui s'est passé de beau dans LHJMQ dans la dernière semaine? Écoute, bon, pas grand-chose. Oui, parce qu'il y a quand même l'Armada qui a gagné deux matchs, donc ils sont allés créer l'égalité dans leur série. Et puis, deux matchs serrés, donc une première victoire de 5-4 et puis une autre victoire de 3-2. Savez-vous qu'est-ce que ces deux parties-là ont en commun? C'est trop long, je vais dire la réponse. Donc, c'est le même gars. C'est le même gars qui a scoré les deux buts gagnants. Un petit gars de chez nous, petit gars de Val-d'Or. On va aller voir ses deux buts.
Day avec une belle feinte et le défenseur n'a pas mordu à l'hameçon. Lampron tente de sauter pour reprendre cette rondelle. Ça n'a pas fonctionné. Ça permet à Cloutier de s'amener. Une passe vers sa gauche pour Golovski qui s'amène. Déborde Tremblay. Golovski seul, tire le but. 5-4.
Tremblay qui s'est fait battre là-dessus, Tommy, encore une fois. En voulant, tu parlais de Rondeau tout à l'heure, cette fois-ci Tremblay, en voulant jouer l'homme.
Je vais me saluer tantôt, j'avais oublié de le faire. Voici l'Italien, Samen. Italien. Pour Golovski, goal! Elliot Golovski! C'est 3-2!
Et encore une fois, qui est à l'origine de ce but?
Fait que c'est ça. Fait que là, je ne me mettrai pas à crier comme le gars de l'Armada parce que je vais perdre la voix. Sauf que c'est ça. Eliott Ogoneski, écoute, deux buts gagnants, c'est deux premiers buts de la série. Ben, c'est la première série. Et il a le droit de faire juste deux buts. Hein? C'est ça. Fait que c'est ça. Écoute, super content pour le jeune homme qui a été un invité de Sur la bande en passant l'an passé. Un commentaire. Quel commentaire? Merci beaucoup, les boys. Philippe qui est content qu'on parle de son équipe. Écoute, c'est ça. Hein, c'est un petit peu
ballon. Le match 7 demain à Sherbrooke.
Ouais, le match 7 demain à Sherbrooke. Ça va être intéressant. Allez, regardez. On passe-tu au segment You Can Do That de la semaine. Donc, le moment, tu peux pas faire ça. I'll have none of your God. You can't do that. You can't do that. Écoute, Michael Asimov. Savez-vous c'est qui?
Ben oui.
Non. Ouais, Zach, c'est qui? Seb, c'est pas c'est qui. Je vous explique, OK? J'ai une séquence vidéo, puis je pense que je vais expliquer après pourquoi je donne le You Can Do That de la semaine à lui.
On va revoir toute cette séquence. Hagel qui s'amène, fait face à Jack Eye. Jack Eye, oui, il veut y aller de mise en échec, mais rate un peu la mise en échec.
Non, c'est Stamkos.
Mais Stamkos ne le rate pas du tout, cependant.
Bon.
Ah, Michael Simon, là, okay, c'est le numéro 23 qui courait après Jack Eye, là. OK? Lui, il court après Jack Eye, il s'en va le chercher, bon, bref, il se tiraille. Rendu que là, c'est pas si pire. Sauf qu'on a vu sa séquence que c'est Stamkos qui est rentré dans son gars. C'est Stamkos qui a blessé son joueur. Puis là, ben, à Simon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné un power play aux Canadiens. Bon, ça a donné que les Canadiens n'ont pas scoré. Sauf que les deux derniers buts, c'était les Canadiens qui l'avaient fait, là. Le match, c'était 6-2. Deux buts, 6-4. Oh! Un power play, un petit bon chanceux, 6-5. Ça peut être un autre match. Fait que Michael Simon, ben, c'est ça. Tu mérites pas de gagner ce match-là, finalement.
Le joueur qui est rentré dans Jack Eye, c'est pas Eagle, numéro 38.
Ouais. Eagle? Non. Eagle. Jack Eye allait faire une mise en échec sur Eagle. OK? Ouais. Ensuite de ça, Stamkos a rentré dans Eagle. Après ça, il y a le 23.
Michael Osmond. Qui
criait? Qui criait?
Qui criait?
Ma poignée.
OK.
Excusez. Non, c'est ça. Après ça, il y a le 23 qui est Michael Osmond qui a couru après Jack Eye. Puis c'est là qu'il a pogné deux minutes parce qu'il est allé brasser. Bon, Jack Eye, ça n'attendait pas. Fait qu'il s'est fait brasser un peu. Mais ouais. Tout ça pour dire que c'est ça. Que Michael Osmond qui aurait pu coûter le match au Lightning de Tampa. Fait que, c'est ça les boys, je vous laisse là-dessus et bonne soirée.
Yes, bye,
bon temps pour cette petite vidéo-là. Shout out au monde. À cage jeudi soir, on a bien ri quand on a vu cette replay-là. Tout le monde à la cage jeudi, là. On a tout ri quand on a vu ça. On riait du gars qui pognait Jack Eye pour absolument rien.
On va parler du podcast la semaine prochaine, lundi 19h. On reçoit l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos dans les Midget 3. Sean Lanoux va débarquer avec nous. À 19h.
Correct, mais c'est la deuxième fois que tu le dis.
Ouais, c'est pas grave, j'aime mieux le dire deux fois, pourquoi pas, si quelqu'un l'écoute jusqu'à la fin. Pour nos trois étoiles de la semaine, on l'a dit tantôt, la première à notre doyen Sylvain Plamondon, la deuxième Mathieu Duguay et la troisième Ludovic des Tigres qui vont affronter les Huskies vendredi. Fait que soyez de la partie. Demain, les boys dans le mille reçoivent la gardienne des Seniors de Concordia, Ariane Leblanc, c'est
une joueuse. Celle qui n'a jamais perdu, là.
Ouais, je pense que c'est elle. En tout cas, si je ne me trompe pas, c'est elle.
Ah, ils ont eu une saison
par contre. Deux. Ouais. Non, c'est ça, d'après moi. Ça va être très intéressant. Demain, 20h dans le mille, avec Jules et Renaud. Fait que, sinon, on se dit à la semaine prochaine.
Yes, salut!
Salut tout le monde.